Le journal Antoine Geoffin.
Bonsoir. L'inquiétude en Syrie, 6 jours que les Turcs ont lancé une offensive pour chasser les Kurdes. Les Kurdes, premiers combattants de Daesh, premiers geôliers aussi. Les mouvements d'Ankara ont des répercussions sur les djihadistes prisonniers, nous dira Claude Guibal. Contexte géopolitique tendu et ce France-Turquie en football ce soir au Stade de France. 3 jours après un geste polémique des footballeurs turcs pour célébrer un but, on s'interrogera sur le lien entre politique et sport en Turquie avec notre invité Antoine Michon. Il est assistant de recherche à l'Institut français des relations internationales. Un air de déjà-vu en Catalogne après la condamnation de plusieurs leaders indépendantistes à de la prison. Aujourd'hui, importante mobilisation populaire. Sébastien Berriot nous emmènera dans la manifestation de Gérone. Enfin, une bonne nouvelle pour les éleveurs normands. Ils peuvent de nouveau vendre le lait de leurs vaches. Les autorités donnent le feu vert 3 semaines après l'incendie de Lubrizol à Rouen. Anne Bertrand nous explique. Pourquoi. Les forces de Bachar el-Assad à Minbej ce soir, une 30aine de kilomètres au sud de la frontière turque en Syrie. Les soldats syriens viennent à l'aide des Kurdes 6 jours après le début d'une offensive turque sur la région. Ankara veut créer une zone tampon et sécuriser sa frontière face aux Kurdes du YPG qu'elle considère comme terroristes. Mais le YPG a lui-même combattu Daesh et fait prisonnier des milliers de djihadistes. Et forcément, l'offensive turque a des répercussions sur les prisons. 800 proches de Daesh se sont ainsi évadés ce week-end, selon les Kurdes. Ankara les accuse de les avoir relâchés pour semer le chaos dans la région. Claude Guibal, le sort des djihadistes de Daesh sert désormais de moyen de pression à toutes les parties en présence.
Dans les prisons dirigées par les Kurdes, 12 000 djihadistes, dont 3 000 étrangers, auxquels il faut ajouter les proches, rassemblés dans des camps de rétention, des femmes, des enfants, 12 000 personnes supplémentaires, arrêtées lors de la libération des villes prises par l'État islamique, des combats menés par les avions de la coalition dirigée par les Américains, mais une coalition qui ne voulait pas mettre de troupes au sol. C'est donc pourquoi les Kurdes ont combattu eux-mêmes et fait prisonnier ces djihadistes qu'ils ont mis dans les prisons, qu'ils ont gérés, en attendant que leur pays d'origine les récupère. Service rendu qui permettait légitimement aux Kurdes de penser que la coalition les protégerait en retour des foudres de la Turquie. En février dernier, alors que le dernier bastion djihadiste était sur le point de tomber, les Kurdes même avaient demandé à tout le monde de rapatrier les djihadistes devenus, je cite, « des bombes à retardement qui pourraient s'échapper en cas d'attaque contre les positions kurdes en profitant du chaos ». Alors que l'offensive turque se précisait, Donald Trump annonçait ainsi avoir mis en lieu sûr 2 cadres de l'État islamique et suggérait à ses alliés de faire pareil en rappelant que les djihadistes n'attendaient qu'une chose, se rendre en Europe. Par ailleurs, en Syrie comme en Irak, les cellules djihadistes sont loin d'avoir disparu et pourraient être très vite réactivées. La France, très inquiète, dit que des mesures vont être prises pour assurer la sécurité des Français présents dans la zone, des civils mais aussi des militaires, notamment les membres des forces spéciales dont la présence a été reconnue à demi-mot par la France.
Claude Guibal, l'UE de son côté promet des mesures restrictives visant la Turquie. Pas d'embargo sur les armes en revanche, le Royaume-Uni s'y est opposé. Enfin, le président américain Donald Trump évoque de grosses sanctions imminentes contre Ankara. Hasard du calendrier, la France affronte en ce moment la Turquie en football éliminatoire pour l'Euro 2020 au Stade de France. Rencontre tendue au vu du contexte actuel. Avec nous sur France Culture pour en parler, Antoine Michon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes assistant de recherche à l'IFRI, Institut français des relations internationales. Vendredi, lors d'un match contre l'Albanie, les footballeurs turcs ont fait un salut militaire pour célébrer un but. L'UEFA parle d'une provocation. Le magazine SoFoot ajoute que ce week-end, un gymnaste et une boxeuse, tous deux turcs, ont mimé le même geste pour fêter leur titre. En France, c'est plutôt rare de voir un sportif s'engager comme cela. Comment vous expliquez cette différence avec la Turquie à ce niveau-là ?
L'armée a toujours eu une place particulière dans la société turque depuis la création de la République turque par Mustafa Kemal. En fait, l'armée a été historiquement vue comme en charge de sauvegarder les principes démocratiques et les principes de la République et donc les principes du kémalisme. Et donc à partir de là, l'unité du peuple turc s'est toujours faite derrière son armée et ça s'est toujours vu dans le sport.
D'accord, et du coup, c'est un moyen de fédérer derrière l'armée, quels que soient les sportifs et les opinions politiques quelque part.
En fait, le conflit actuel donc contre le YPG en Syrie et contre les SDF, qui sont donc les cousins syriens du PKK, fait écho notamment aux affrontements dans les années 90 et aux vagues d'attentats qui ont suivi, qui ont fait des dizaines de milliers de morts en Turquie. Et donc, il y a déjà de base une union nationale derrière l'armée turque, et là encore plus du fait de la guerre contre les Kurdes.
Et c'est un mouvement qui vous paraît spontané de la part des sportifs, c'est quelque chose au contraire qui est quelque part un peu dicté parce que peut-être les sportifs n'auraient pas le choix par rapport à la situation dans leur pays.
Non, les sportifs turcs à l'étranger, dans leur immense majorité, il y a un ou deux exemples notoires comme le basketteur Enes Kanter aux États-Unis, mais l'immense majorité des sportifs turcs supportent Recep Tayyip Erdogan comme en fait la majorité de la diaspora turque à l'étranger de la Turquie. Puisqu'ils ont la chance, entre guillemets, de pouvoir rester dans la vision projetée de la nouvelle Turquie promue par Erdogan depuis son arrivée au pouvoir. Et donc, en fait, n'ont pas à subir ni les vagues d'attentats djihadistes, ni la grave crise économique qui touche la Turquie actuellement. Et donc, sont en connivence directe avec le pouvoir, mais c'est absolument pas dicté depuis le palais présidentiel.
Et finalement, tous ces saluts militaires qu'on a pu voir, notamment pour ceux qui ont pu le voir vendredi contre l'Albanie, hein, les footballeurs turcs qui se sont mis à la toute fin du match, lors du but, c'était dans les arrêts de jeu, en rang, tous avec la main sur le front pour mimer le salut militaire. Est-ce que c'est une forme de défiance aussi vis-à-vis de l'Occident, ou est-ce que c'est plus une forme de défiance ou une forme de confiance est-ce que c'est plus du soutien d'Erdogan ou davantage un message adressé aux Occidentaux?
Je pense que c'est beaucoup plus, en tout cas en premier lieu, du soutien à l'armée turque et du soutien au régime, et plus particulièrement à l'armée plus qu'au régime. D'autant que le match se jouait en Albanie, un pays avec lequel les Turcs ont de très bons liens. Par contre, il est vrai que dans son positionnement par rapport à l'Occident, le sport a toujours joué une place particulière en Turquie. Que ce soit dans les affrontements, dans les périodes de tension avec la Grèce, ou alors également au moment où la Turquie faisait des progrès dans son adhésion à l'Union européenne. À ce moment-là, que ce soit les titres de presse, les messages des supporters, ou même l'attitude des joueurs, était beaucoup plus conciliante vis-à-vis de l'Occident. La France fait partie des puissances majeures en Europe et en Occident, accusé de vouloir mettre de côté la Turquie et de refuser son entrée dans l'Union européenne et de refuser son intégration. La France a été extrêmement critique envers la Turquie ces dernières années sur les violations des droits de l'homme, l'emprisonnement des journalistes, mais notamment le tournant autoritaire pris après 2013, où les supporters de foot avaient notamment joué une place très importante. Et depuis que la France a pris ses positions, la Turquie a suivi dans le sens opposé.
Et finalement, dernière question, c'est si on comprend bien, si je vous suis bien, le sport, non seulement le football, et la politique, la géopolitique sont intimement liés. En fait, on peut pas faire l'un sans l'autre en Turquie, et au vu de ce qui se passe en ce moment avec, alors vendredi dernier, ces saluts militaires.
Le sport est un moyen d'expression de manière générale, et la société turque étant extrêmement patriote, elle s'exprime aussi par le football, elle s'est toujours exprimée par le football. Et quand elles se sont attaquées, comme c'est le cas aujourd'hui, que ce soit par l'Occident ou par les Kurdes, elles se regroupent autour d'elles-mêmes et elles se défendent et elles se protègent, et y compris dans le sport.
Et c'est un marqueur en quelque sorte le sport.
Oui. Absolument, c'est un moyen d'expression.
Merci Antoine Michon, assistant de recherche à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci d'avoir été l'invité de notre journal sur France Culture. L'aéroport de Barcelone, noir de monde aujourd'hui, noir de manifestants qui se heurtent aux policiers. Octobre 2017, octobre 2019, bis repetita. Il y a 2 ans, la Catalogne se lançait dans un processus d'indépendance, processus maté dans la violence par Madrid. Et si la tension est revenue dans les rues de Catalogne aujourd'hui, c'est à cause de ce jugement, 9 à 13 ans de prison pour 9 dirigeants catalans, alors en fonction. Beaucoup de Catalans n'acceptent pas ce jugement et ont manifesté aujourd'hui à Gérone, dans le nord de la Catalogne. Ils étaient des milliers. Reportage de Sébastien Berriot.
Les habitants de Gérone ont répondu par milliers à l'appel lancé par le camp indépendantiste. Quelques minutes après l'annonce du verdict, mouvement spontané, tout le monde s'est retrouvé dans le centre-ville avec de la tristesse et de la colère. Mercé, 62 ans, n'arrive pas à croire comment de telles peines ont pu être prononcées.
Nous sommes en colère. Ce politicien qui sont en prison, ont lutté pour l'indépendance de Catalogne pacifiquement, sans violence. tristesse pour ces gens, sont notre politicien, sont notre compagnon. Ils ne sont pas seuls, beaucoup de Catalans sont avec lui. Nous donnons notre support et un embrassement très fort.
Dans la foule, Johan, un proche de l'ancienne ministre catalane du Travail, Dolors Bassa, qui fait partie des condamnés.
Je ressens une grande douleur pour Dolors, qui a été condamnée à 12 ans de prison. C'est une amie à moi. On a été au syndicat ensemble. Elle n'a rien fait de mal, juste à aider à organiser un référendum. Je pense à elle chaque jour en prison. Mais nous allons continuer le combat. Vive la Catalogne, vive la République et vive l'indépendance.
Vive la Catalogne, vive la République, vive l'indépendance.
Les manifestants continuent de se rassembler dans le centre-ville de Gérone. Ils ont occupé tout à l'heure les voies de la gare TGV. Pour le moment, les forces de l'ordre présentes en grand nombre ne sont pas encore intervenues.
Reportage Sébastien Berriot de France Bleu Roussillon à Gérone, donc fief de l'ancien président indépendantiste Carles Puigdemont. Depuis la Belgique où il s'est exilé, il dénonce des condamnations injustes et appelle à répondre par les urnes en novembre. La justice espagnole souhaite toujours le juger. Elle vient de lancer un nouveau mandat d'arrêt européen et international à son encontre. Kais Saied, officiellement élu président de la Tunisie, les résultats préliminaires confirment la victoire écrasante de l'ancien professeur de droit. Le conservateur recueille près de 72% des suffrages au second tour face à Nabil Karoui. Au Japon, le bilan du typhon Hagibis s'alourdit, 56 morts désormais au moins. Les autorités craignent des inondations et des glissements de terrain. Deux migrants irakiens retrouvés morts aujourd'hui sur une plage du Touquet, une première dans le Pas-de-Calais. Un semi-rigide a été découvert, échoué à une vingtaine de mètres de là. Un énorme ouf de soulagement à présent pour les éleveurs de Seine-Maritime. Ils peuvent de nouveau vendre le lait de leurs vaches. Le préfet les autorise. La collecte était interdite depuis l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen le 26 septembre. Pour lever ces restrictions, Anne Bertrand, le préfet s'appuie sur les analyses de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation.
Ce que l'ANSES a recherché dans ses prélèvements, c'est notamment les dioxines et les métaux lourds qui, trop élevés dans les aliments, peuvent s'avérer dangereux pour la santé. Il en ressort qu'aucun seuil maximal n'est dépassé, sauf le plomb qui présente une valeur, selon l'ANSES, atypique et isolée. Mais sinon, ces contaminants ne présentent pas, sur plusieurs jours de tendance à la hausse, ils affichent même des valeurs inférieures à ce qui a pu être observé lors d'autres accidents industriels. L'ANSES souligne toutefois que des incertitudes demeurent quant au risque de contamination du lait par les retombées de l'incendie et une levée des mesures de restriction doit s'accompagner d'un dispositif de surveillance renforcé. L'ANSES a examiné les résultats de 130 prélèvements de lait avant de rendre son avis très attendu des agriculteurs. Le préfet de Seine-Maritime l'a donc jugé suffisant cet avis pour lever ces restrictions. Pour les œufs, le miel, les poissons et les fruits et légumes, il faut encore attendre, mais le préfet a bon espoir que ce soit dans la semaine.
Anne Bertrand de France Bleu Haute-Normandie, j'ajoute que la région va avancer 5 millions d'euros pour aider les éleveurs en difficulté. Une franco-américaine reçoit le prix Nobel d'économie Esther Duflo et récompensée au sein d'un trio de chercheurs spécialisés dans la lutte contre la pauvreté. À 46 ans, Esther Duflo devient la plus jeune lauréate du prix d'économie. Son portrait est signé Laurent Kramer.
L'économiste française enseigne dans la prestigieuse institution scientifique du MIT, à Boston donc, aux États-Unis. Ses travaux lui ont valu en 2013 d'être choisi par la Maison Blanche pour conseiller directement Barack Obama sur les questions de développement et de pauvreté. Lorsque l'on parle pauvreté, comment sortir des dogmes, de la morale, de la politique pour mesurer l'efficacité d'une politique de développement? Esther Duflo a mis au point des protocoles scientifiques comme le ferait un biologiste. L'expérience concrète et le travail de terrain des ONG est-il plus efficace, par exemple, de distribuer des ordinateurs ou de mettre en place du soutien scolaire pour lutter contre les inégalités scolaires en Inde? Faut-il donner ou vendre à un prix même symbolique des moustiquaires pour réduire le paludisme? Eh bien, Esther Duflo mesure et met en lumière que l'évaluation scientifique de l'efficacité des politiques pour lutter contre la pauvreté est nécessaire pour lutter et se débarrasser durablement de la pauvreté en 2 décennies seulement. Cette approche, basée sur l'expérience, a transformé l'économie l'économie du développement, conclut le prix Nobel.
Laurent Kramer, la météo, attention, 37 départements toujours en vigilance orange aux orages. Les Hauts-de-France, la région parisienne, le Val-de-Loire, la basse vallée du Rhône. Demain, de la pluie partout, sauf pour les côtes de la Manche, l'Alsace et les Pyrénées-Orientales. Des orages toujours en Corse, sur le Pays Basque et en Corse. Et encore, je l'ai dit, ça se découvre l'après-midi sur les bords de Méditerranée, au Pays Basque et dans les Hauts-de-France. Vous aurez un beau soleil. Les températures, le matin, 15 à Paris et à Lyon, 18 à Strasbourg, 13 à Nantes. L'après-midi, vous aurez 15 degrés à Brest et Lille, 19 à Marseille, 17 à Toulouse, 16 pour la capitale. La maximale, ce sera pour Nice avec 22 degrés.